Bonjour à toutes et à tous, 24e numéro pour Mémoire Aveyronnaise sur CFM Rodez et avec Vincent Besombe. Salut Vincent.
Salut.
Vincent, toujours président du comité Rodez du souvenir français.
Comment ça, toujours? Bien sûr.
Évidemment.
Encore. Pas toujours, encore et toujours.
Alors, pour ce numéro 24 de Mémoire Aveyronnaise, si je me souviens bien, Vincent, tu nous avais prévenu, averti, que l'on allait s'intéresser aux soldats inconnus, je crois.
Tout à fait.
Hein, mais
alors celui qui est mort.
Voilà, parce que
c'est pas drôle, chers auditeurs. Excusez-nous. Mais en fait, voilà, on sourit parce que dans une émission précédente, nous avions parlé d'un soldat inconnu vivant.
Oui.
Je vous le rappelle, c'est Charles Mangin, le fameux amnésique de Rodez.
Voilà.
Je vous invite d'ailleurs à retourner voir sur le podcast cette émission.
Tout à fait, sur cfmradio.fr. Donc là, on parle du soldat inconnu, le plus connu, quoi.
Le plus connu des inconnus.
Voilà.
Oui, celui qui est enterré sous l'Arc de Triomphe à Paris.
Mm-hmm.
Alors le plus connu des soldats inconnus, parce que
on est bien d'accord qu'il est inconnu.
À la fin,
tu sais pas qui c'est. Tu vas pas nous le dire.
Moi, je pense que c'est mon oncle.
Ah bon?
Mais non, je plaisante. Mais quand je dis le plus connu des soldats inconnus, je garde ça pour la fin. On verra. Il y a énormément de soldats inconnus. Ça a fait vraiment boule de neige.
Ah bah oui.
Maintenant, dans le monde entier, on verra ça.
On
verra ça à la fin.
Dans
le monde entier.
Je pensais que tu faisais référence simplement aux soldats qu'on n'avait pas identifiés.
Ah non, le soldat inconnu que un pays honore pour à travers lui honorer tous les soldats qui sont morts pour sauver la patrie. Quoi.
D'accord, donc il y en a vraiment comme la France.
Voilà.
Ok, bon, allez, on commence par le commencement.
Alors, on commence même avant le commencement. Ah. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais rappeler quelques chiffres qui me paraissent vraiment importants pour parler justement de tous ces morts de la guerre de 14. Donc, la Première Guerre mondiale a fait au total 18,6 millions de morts, donc ce qui est vraiment énorme. Pour la France, on compte 1 397 800 000 morts uniquement pour les soldats. Et 300 000 morts parmi les civils.
D'accord.
Alors, je vais parler de l'Aveyron. En Aveyron, on compte à peu près 14 000, c'est énorme, hein, 14 000 soldats tués durant tout le conflit. Ce qui fait à peu près, pour toute la durée de la guerre, 10 Aveyronnais tués par jour. Si on calcule. Alors 10 par jour, je le rappelle, c'est un très très beau reportage d'Yves Garrick,
oui,
que vous pouvez retrouver en DVD sur justement les Aveyronnais durant la guerre de 14. Donc, 10 par jour, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est vraiment énorme. Il y a qu'à voir, on en a déjà parlé, tous les monuments aux morts qu'il y a dans nos petites communes.
Ah oui, bien sûr.
Alors, l'idée d'honorer les morts pour la France à travers un soldat anonyme voit déjà le jour durant la guerre de 14. On commence déjà à en parler avec, bien entendu, tous ces morts. On imagine à cette époque que l'on pourrait enterrer ce soldat inconnu au Panthéon. Où reposent les grands hommes de la patrie reconnaissante. Donc ça serait logique, ouais. ça serait le lieu. Mais on est en pleine guerre et l'heure n'est pas encore aux hommages. L'heure est, bien entendu, c'est au combat et également l'idée principale, c'est chasser enfin les Allemands hors de France.
Eh oui.
Quelques mois après la fin de la guerre, cette idée refait surface au sein de l'hémicycle. Ce ne sera finalement pas le Panthéon qui sera choisi, mais l'Arc de Triomphe que l'empereur Napoléon Ier a fait ériger en hommage aux soldats de sa grande armée. C'est bien aussi,
oui,
puisque c'est vraiment militaire. Hein.
Ouais.
On en a déjà parlé, notamment avec Viala, sur les colonnes de l'Arc de Triomphe. Sur les jambes de l'Arc de Triomphe, il y a notamment le nom des généraux qui sont morts aussi pour l'Empire, pendant les grandes batailles du Premier Empire. Le gouvernement choisit la date du 11 novembre 1920 pour fêter en grande pompe deux événements historiques majeurs. Alors, bien sûr, parmi ces événements, il y a l'enterrement de ce fameux soldat inconnu.
Ouais.
Le 11 novembre 1920, c'est la victoire. On est 2 ans après la victoire et l'armistice du 11 novembre 1918. Mais c'est également le jour qui est choisi pour transférer le cœur de Gambetta au Panthéon.
D'accord, bah lui c'est le Panthéon.
Ah lui c'est Panthéon. Ben c'est pas un militaire. Donc voilà, donc lui on peut éventuellement le mettre au Panthéon. Tu vois, on fait le distinguo entre militaire et civil, quoique il y a les cendres de Jean Moulin, et Jean Moulin, c'est bon, c'est pas vraiment
ouais,
l'armée,
non, c'est, la, pas militaire,
c'est l'armée secrète,
oui, dans le combat.
Mais c'est quand même, voilà, c'est quand même apparenté. Mmh. Et en fait, pourquoi ce jour-là pour le cœur de Gambetta au Panthéon? Parce que cette année-là, on fête l'anniversaire de l'instauration de la Troisième République. Ah, les 50 ans. 1870, les 50 ans de l'instauration de la Troisième République. Mais revenons à notre fameux soldat inconnu. Donc, dès l'armistice signé, des recherches sont menées dans 8 régions de France où se sont déroulés les combats les plus meurtriers. Alors, ces régions, c'est la Somme, l'Artois, les Flandres, le Chemin des Dames, la Champagne, l'Île-de-France aussi, on y pense assez peu, les combats sont venus vraiment très proches de Paris. La Lorraine et bien sûr Verdun. Donc 8 régions, ça fait 8 corps, mais ces 8 corps, je le rappelle, c'est un soldat inconnu, on doit être vraiment certain, il y a toute une enquête qui est faite, on doit être vraiment certain que ce soldat ne sera jamais identifié. Ouais. Il y avait une 9e région, avec un 9e corps, qui était prévu pour ce tirage au sort. Mais finalement, ce corps ne sera pas pris à Verdun pour le tirage au sort parce que, au dernier moment, on a eu un doute, un sérieux doute, que en fait le corps n'appartenait pas à un soldat français.
Donc, ah ouais, c'était peut-être un, on ne sait pas quoi, mais pas.
Tu sais, la violence des combats. S'il est mort en 1914, on est en 1920. L'état du corps, l'état des vêtements, etc. Soldat inconnu, donc ça veut dire pas de papier, pas de plaque d'identité. Si l'uniforme a sauté, on voit plus les boutons, on voit plus.
Mais alors le soldat inconnu, fallait quand même qu'il soit connu pour être français, quoi.
C'est ça. Ouais. Donc un peu connu.
Donc un peu connu quand même.
Donc un peu connu quand même. Tout à fait. Okay. Tu as raison. Ouais. Alors le 8 novembre 1920, tu vois, on s'approche du 11 novembre. Un adjudant, un chauffeur et un mécanicien dépanneur de la 439e compagnie de transport qui était basée à Strasbourg, reçoivent l'ordre de se rendre avec leur camion Dion-Bouton. C'est une très très vieille marque, c'est joli, Dion-Bouton, c'est joli comme nom. Au cimetière du village de Danemarie, dans le sud de l'Alsace, pour une mission spéciale. Ça m'étonne que tu ne m'aies pas encore posé la question, mais c'est joli cette histoire, mais quel lien avec l'Aveyron?
Oui, non, mais t'as raison, mais j'attends,
tu t'endors, cher ami.
Non, mais je me dis qu'il y a l'Aveyron qui va arriver quelque part.
Tout à fait. Bon, ce fameux mécanicien dépanneur, c'est lui, un Aveyronnais.
Est-ce qu'on est bien sûr?
Oui. Bon. Il s'agit de Gaston Boyer, né à Villefranche-de-Rouergue en 1899.
Mais qu'est-ce qu'il foutait en Alsace? Ah oui, mais il faisait la guerre en même temps.
Non, 1920, c'était après. Ah ouais. Mais lui a fait la guerre. Alors tu vas voir. Attends un petit peu. Okay. Lui, il fait partie de la classe 1919.
D'accord.
Mais la classe 19, je le rappelle, tous ceux de la classe 19 ont été incorporés un an avant. Donc lui a fait les derniers mois de la guerre au sein de mon très cher 122e régiment d'infanterie de Rodez. Voilà.
D'accord, très bien.
Donc il va combattre dans les derniers mois de la guerre. Après l'armistice, il reste dans l'armée, et passe dans le train. Alors, pas le train de voyageurs, pas le train de chemin de fer. Ouais. Le train, c'est, je le rappelle, c'est pour ce, chers auditeurs, pour ceux qui connaissent pas trop l'aspect militaire, c'est le service du matériel, où il devient mécanicien dépanneur. Donc, il profite de son expérience acquise à l'armée pour devenir mécanicien à Villefranche-de-Rouergue durant sa vie civile. Donc tu vois, on peut apprendre quand même pas mal de choses à l'armée. Beaucoup de personnes y ont appris un métier ou une pratique, ou certains ont même pu, à une certaine époque, passer leur permis. Il est à nouveau mobilisé, le pauvre, toujours dans le train, en août 1939. La classe 19, il faut le savoir,
a fait les deux.
Ont été en âge, voilà, de faire. Moi, je connais le cas de plusieurs personnes. Ont été en âge. Alors, c'était des réservistes, c'était des papis, mais ont été en âge d'être remobilisés en 1939. Il est démobilisé en 40. Et comme il est apparemment un patriote dans l'âme, il va rentrer également dans la résistance durant l'occupation allemande.
Ah bah dis donc.
Voilà. Donc voilà notre fameux lien entre le soldat inconnu et l'Aveyron. Mais revenons à cette fameuse mission spéciale au cimetière de Danemarie. Donc les 3 soldats sont accueillis à leur arrivée par un officier qui leur donne l'ordre de déterrer 3 cercueils. 3 cercueils pour commencer, hein, parce que ça pouvait aller. Ouais, ouais. S'ils ne trouvaient pas au bout de 3, ça... Hey, on est le 8 novembre, c'est l'enterrement du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe, c'est prévu pour le 11, donc ça presse un peu quand même. Ouais. Le premier corps ne va pas du tout les intéresser, car après l'ouverture du cercueil, ils s'aperçoivent qu'il s'agit d'un sous-officier.
Ah, il est un militaire du rang.
Et oui, et les ordres sont vraiment stricts. Le soldat inconnu doit être obligatoirement un simple soldat. Donc tu vois, là aussi, il est connu pour ça, pour être simple soldat.
Français et simple soldat. Voilà, la personne, on ne sait pas qui c'est.
Voilà, c'est ça. Si je t'ai dit, c'est mon oncle.
Ah, oui.
Le second cadavre n'est pas plus intéressant pour eux, car là, les restes sont vraiment... C'est comme le neuvième dont j'ai parlé tout à l'heure. Les restes sont vraiment trop abîmés, et les vêtements aussi. Et on n'a pas du tout la certitude. On est vraiment pas sûr, finalement, que ça soit vraiment un Français. On n'a pas la preuve absolue. Ça serait dommage de mettre un Allemand à cette époque-là. Maintenant, c'est la réconciliation. À l'époque, ça aurait été dommage de mettre un Allemand sous l'Arc de Triomphe.
Mais je me demande, c'est quoi la preuve sur des ossements que c'est un soldat français? Moi, ça, c'est ça que je...
Il n'y en a pas. Et ben, voilà. Y en a pas. Le fameux ossuaire de Douaumont, ouais, dont on a parlé dans la première émission de Mémoire à Véronèse, avec Monseigneur Ginisti. Et bien, ce qu'il y a de beau aussi dans ce fameux ossuaire de Douaumont, c'est que
c'est plein d'Allemands.
Tout le monde est mélangé. Ouais. Voilà, on est frères après les combats, dans l'éternité.
Mais enfin, là, il voulait quand même pas pousser, il voulait un vrai Français pour le soldat inconnu.
Tout à fait. Okay. Donc le troisième, enfin, le troisième est le bon. Donc ouf, ils n'auront pas à déterrer encore d'autres cercueils. Il s'agit d'un simple soldat enterré dans son uniforme à pantalon et à képi rouge du tout début de la guerre. Mmh. Et le registre du cimetière indique bien qu'il n'a pas été possible de l'identifier en l'absence de sa plaque matricule et de tout document.
D'accord.
Voilà, donc bingo, on en tient un.
Allez.
Ce soldat, lui, est mort, on le sait par rapport au registre du cimetière, durant les combats du 13 août 1914.
Tout début de la guerre.
Tout début de la guerre, vraiment août 14, quelques jours après. La nuit commence à tomber et les trois fossoyeurs apportent les restes de ce soldat dans l'école du village afin de transférer les restes dans un cercueil neuf. Le lendemain, 9 novembre, ils prennent la route avec leur précieux chargement en direction de la citadelle de Verdun, où le cercueil de Danemarie va rejoindre les 7 autres cercueils pour la cérémonie du tirage au sort. Les 8 soldats inconnus sont placés dans une casemate de la citadelle souterraine de Verdun, transformée pour l'occasion en chapelle ardente. Mélangés plusieurs fois, pour rendre leur provenance totalement anonyme, et oui, parce que si on savait, bah, tel cercueil, c'est moi qui l'ai apporté, c'est celui d'Anne-Marie, je vais aider à ce que ça soit celui-là.
D'accord.
Tu vois, faut encore une fois vraiment mélanger pour être sûr qu'il n'y ait pas une préférence par rapport à Verdun ou par rapport à la Somme.
Ouais, oui,
voilà, tout à fait. Donc, les 8 cercueils sont placés sur 2 colonnes de 4. Ils sont gardés et veillés toute la nuit par une garde d'honneur composée de soldats du 132e régiment d'infanterie qui est basé à ce moment-là à Verdun. Le 10 novembre, et on s'approche vraiment du 11, le 10 novembre, Auguste Tain, un soldat de 2e classe de ce fameux 132e, c'est pas le 122, dommage, hein, 132e régiment d'infanterie, est chargé de désigner le soldat inconnu qui reposera sur l'Arc de Triomphe. Lui, il est engagé volontaire de la classe 1919, fils d'un combattant mort pendant la guerre de 14. Donc, il a fait la guerre de 14, il a fait les derniers mois, il a bien combattu. Et en plus, son père est mort à la guerre. C'est pour ça qu'il a été choisi, en fait. André Maginot, ministre des pensions et futur ministre de la guerre, André Maginot, ça t'a
dit quelque chose? Oui, celui qui a dû se dire « Oh, attends, j'ai un plan pour la prochaine fois. »
C'est ça.
On va les empêcher de venir, on va faire une grande défense.
C'est ça, c'est celui qui a eu l'idée de la fameuse ligne Maginot.
Il a eu la bonne idée.
Bah, il a eu la bonne idée, sauf que les Allemands ont eu l'idée de contourner, c'est tout. Mais sinon l'idée était pas mal.
Sinon, ils seraient passés par là.
Ah, c'est ça.
Là, ils ont dû faire un petit détour.
C'est ça. Ils ont visité la Belgique, ils ont été goûter le chocolat. Donc André Maginot préside cette cérémonie, il s'avance vers Auguste Tain et lui tend un bouquet et lui dit, alors je vais citer André Maginot, « Voici un bouquet de fleurs cueilli sur le champ de bataille de Verdun, parmi les tombes des héros morts pour le pays. Vous déposerez ce bouquet sur un des 8 cercueils. Ce cercueil sera celui du soldat inconnu que le peuple français accompagnera demain au Panthéon et à l'Arc de Triomphe. » et ça continue. Je ne vais pas citer tout le discours. Mais voilà, la substance, c'est vraiment le passage le plus beau et le plus marquant, c'est celui que je viens de vous citer. Mmh. Auguste Thin pose son bouquet sur le sixième cercueil.
Alors, est-ce qu'on sait pourquoi le sixième? Je suis sûr qu'il y avait une raison. Il est né un 6.
Alors, je le cite.
Vas-y.
Allez, je le cite. Il me vint une pensée simple.
Ah.
J'appartiens au 6e corps.
Ben voilà.
Et en additionnant les chiffres de mon régiment, le 132, c'est également le chiffre 6 que je retiens.
1 plus 3 plus 2.
Ma décision est prise, ce sera le 6e cercueil que je rencontrerai.
Ah, et voilà.
Tout s'explique. Cet événement historique, ainsi que la recherche des soldats non identifiés, sont remarquablement bien représentés dans le film de Bertrand Tavernier.
Je me rappelle plus, mais je l'ai vu en plus.
Tu l'as vu? Extraordinaire film. Je vous le conseille à tous. La vie et rien d'autre.
Ah voilà.
Avec Philippe Noiret, qui est formidable.
Bah, toujours.
Et ce film est sorti en 1989. La vie et rien d'autre. Vraiment, je vous le conseille. Et alors, je l'ai encore regardé et repassé en boucle le passage où justement il y a Auguste Thin qui choisit ce soldat inconnu. C'est vraiment beau. C'est vraiment bien fait. Moi qui suis très critique. Sur les films historiques, surtout les films militaires. Là, c'est vraiment c'est la reconstitution.
Bon, Bertrand Tavernier en même temps.
C'est ça, c'est ça. Bon. Le convoi quitte Verdun et arrive à Paris le 11 novembre. Le cercueil du soldat inconnu est d'abord placé au Panthéon pour y être honoré, puis transféré sous l'Arc de Triomphe pour y être enterré. Toutes ces cérémonies se sont déroulées en grande pompe et devant une foule immense. En 1923, une flamme éternelle, tu sais, on parle beaucoup de la flamme de l'Arc de Triomphe ou la flamme du soldat inconnu, est ajoutée à côté de la tombe. Mmh. Elle est ravivée tous les jours à 18h30 par une garde d'honneur et des associations d'anciens combattants. Alors, je ne veux pas me tromper, mais il me semble que la flamme ne s'est jamais éteinte et a été ravivée tous les soirs, y compris durant l'occupation allemande.
Voilà. Ah, c'est oui, parce que. Alors, je sais pas, mais c'est pas impossible parce que les Allemands, bon.
Avaient un très grand.
Ils avaient quand même un très grand respect
pour les combattants.
La Première Guerre mondiale, les combattants.
Voilà, etc., etc. Et je le rappelle, absolument aucun respect pour les résistants.
Ah, bah non.
Puisque militaire, on est protégé.
Voilà.
Résistant. Et on est honoré, surtout qu'à ce qu'on se bat. Et les résistants, t'as tout à fait dit le mot juste, ce sont des terroristes.
C'est ce qu'on dit encore maintenant.
Ouais. Alors, ce que je vous disais au tout début, cette fameuse tradition des tombes des soldats inconnus, donc est née durant la Première Guerre mondiale, comme on vient de le voir. 38 tombes de soldats inconnus sont honorées dans 31 pays du monde.
38 tombes dans 31 pays, donc ça veut dire qu'il y a des pays qui ont plusieurs soldats inconnus.
Alors, t'es vraiment un matheux.
Ouais,
tout à fait. Ouais. Alors, par exemple, c'est le pays où il y en a le plus.
Ah bon, la Russie? Non, quand même pas.
Juste à côté, la Pologne.
Ah ouais.
Alors, en Pologne, en fait, ils ont 4 tombes de soldats inconnus.
Ah bah dis donc.
Et alors, figure-toi, moi j'ai fait une découverte, c'est ce qu'il y a de magique aussi avec cette émission. Je vous fais découvrir des choses, mais moi ça me permet d'en découvrir aussi. Je savais pas du tout. En France, nous avons 2 tombes du soldat inconnu.
Ah non. Ah non, ça, je serais au courant.
Eh ben moi aussi, mais tu vois.
À chaque fois, le président.
Mais maintenant, t'es au courant, je te le dis.
Macron, Sarkozy, Hollande, Chirac, Mitterrand, voilà, j'ai pas connu plus. Tous, moi, à chaque fois que je les ai vus aller.
Oui.
C'était à l'Arc de Triomphe, ils sont pas allés ailleurs.
Oui, mais c'est le soldat inconnu.
Ah.
C'est le soldat inconnu qui représente les morts de toutes les guerres.
D'accord, le plus connu.
Le plus connu des inconnus.
Voilà.
Tout à fait. Donc. Tu veux vraiment qu'on le connaisse, ce soldat inconnu.
Alors,
mais on va le connaître grâce à cette émission. Alors. En fait, la deuxième tombe du soldat inconnu, c'est vrai, c'est pas une.
Non,
c'est
mais j'ai un petit doute.
C'est pas une. Non, c'est vrai, c'est pas une plaisanterie.
On verra après. C'est à Disneyland.
En fait, c'est la tombe du soldat inconnu de la guerre d'Algérie.
Ah, il y a un soldat inconnu à la guerre d'Algérie.
Tout à fait.
Alors que c'était même pas une guerre, enfin, soi-disant.
Alors, mais t'as raison, puisque ça a été décrété comme une guerre, je crois.
Oui, récemment.
En 1999, si je ne me trompe pas. Avant, c'était juste du maintien de l'ordre.
Voilà,
et pourtant.
Oui.
Et pourtant, cette tombe se trouve à Notre-Dame-de-Lorette.
Ah oui,
alors, ce qui est curieux,
Paris.
C'est que Notre-Dame de. Non. La nécropole nationale de Notre-Dame-de-Lorette, c'est dans le Pas-de-Calais.
Ah, pardon. Je confonds avec la station.
Comme disait Coluche, c'est là où il n'y a pas de Calais. Si on m'avait prévenu, je ne serais pas venu, parce que moi, je voulais voir Calais. non, c'est dans le Pas-de-Calais. Ah, c'est Notre-Dame-de-Lorette, qui pourtant est une nécropole nationale de 14-18. Mmh. Vraiment énorme. Moi, je l'ai visité. C'est un lieu vraiment très, très émouvant et très beau. Mmh. Et là, on est très, très tôt, puisque cette tombe a été inaugurée en octobre 1962. tout juste,
ah
trois,
ouais, juste trois mois après.
Et c'est ça, trois mois après l'indépendance, ouais. Du 5 juillet 1962, l'indépendance algérienne.
Ouais, mais là, à mon avis, c'est un moment qu'il n'y a plus de flamme parce que.
Et je sais pas s'il y a une flamme.
Moi, j'ai jamais vu personne rallumer la flamme du soldat inconnu de la guerre d'Algérie.
Je sais pas du tout. Ouais. Mais enfin, bon, voilà. Écoute. Le soldat inconnu pour toutes les guerres, c'est ce fameux soldat inconnu de l'Arc de Triomphe.
Oui.
Alors, les deux premiers soldats inconnus de l'histoire à être honorés, donc on l'a vu, c'est le soldat français du soldat inconnu. Et également, il y a un soldat anglais.
Ah ben, c'est ce que j'allais dire, les Anglais, ils ont dû... Parce que
ils ont perdu aussi beaucoup de monde. Ah, oui. Alors, tous les deux...
Comment on dit en anglais, le soldat inconnu?
Soldat inconnu,
je sais pas. Bon,
okay. Comme tout bon français, je suis très bon en anglais.
Je vois ça.
Alors, tu m'as perturbé.
Non. Il est anglais.
Alors voilà, tous les deux enterrés le 11 novembre 1920. On a choisi de chaque côté de la Manche.
Même jour, en même temps.
En même temps.
Ah, la
même date symbolique.
D'accord.
Donc le français, on l'a dit, il se trouve sous l'Arc de Triomphe. L'anglais. Vas-y, peut-être, t'as une idée ?
Oh, non, parce que je suis nul en...
Mais
je sais plus, le machin Hall ou un truc comme ça, non ?
L'abbaye de Westminster.
Carrément.
Ah ouais,
ouais. Ça rigole pas.
Carrément.
Ah, bah, respect.
Alors, on peut marcher, ce qui est assez surprenant, c'est qu'on peut marcher sur toutes les tombes qui sont, tu sais, normalement, les tombes qui sont... où il n'y a pas de gisant, on va pas monter sur les gisants.
Ouais,
hein.
Mais les
tombes où il y a une simple dalle, normalement, dans les églises, on peut marcher dessus. Par signe, on n'ose pas souvent marcher dessus, mais c'est fait pour.
Ah mais tu veux dire dans les églises.
Dans les églises.
Oui, souvent.
Par signe d'humilité.
D'accord.
C'est par signe d'humilité. À Westminster, apparemment, d'après ce que j'ai lu, on peut marcher sur toutes les tombes.
Ouais.
Sauf.
Ouais, on marche sur des rois. Ils sont
terrés. On marche sur des rois. Ouais. Sauf celle du soldat inconnu, où il y a, tu sais, les fameux poppies, les fameuses fleurs rouges en papier qui sont disposées tout autour et qui font une espèce de barrière infranchissable. Voilà pour l'histoire de nos soldats inconnus, un peu mieux connus maintenant avec cette émission.
Et surtout avec un lien avec l'Aveyron.
Allez, j'ai trouvé un lien avec l'Aveyron.
Grâce à ce Villefranchois.
Tout à fait.
Rappelle-moi son nom si tu l'as en tête.
Gaston Boyer.
Ah bah voilà, Gaston Boyer. Merci beaucoup, Vincent Besombe.
Merci à toi.
On se retrouve dans 15 jours, si tu veux bien.
Oh, oui, allez.
J'espère, pour un 25e numéro.
Je le veux bien.
Bon, 25e numéro de Mémoire Aveyronnaise, tu connais un petit peu le sujet. Dans 15 jours, on sera au mois de novembre.
Alors, on sera le 1er novembre.
Ah, carrément.
Ah oui, on sera carrément le 1er novembre. Ouais. Et le 1er novembre est une date importante pour moi.
Oui.
Comme tu l'as rappelé, je suis le président du comité de Rodez des souvenirs français. Et c'est la Toussaint.
Ben oui.
Et c'est le jour, le 1er novembre, où nous pouvons officiellement quêter. C'est la quête nationale du souvenir français.
C'est vrai.
Alors, c'est sur plusieurs jours, notamment, en général, c'est le week-end. Bon, là, le 1er novembre, c'est un mardi. C'est surtout, nous, le 1er novembre, parce qu'on a une cérémonie au Monument aux Morts assez tôt le matin. Enfin, pas le Monument aux Morts, mais le monument central du cimetière de Rodez. Et d'ailleurs, moi, je serai présent toute la journée si certains auditeurs veulent venir me saluer ou me rencontrer pour la quête nationale du souvenir français à la porte basse qui se trouve du côté de l'avenue du Rang-de-Gros toute la journée pour faire la quête du souvenir français. Alors, je profite de cette journée pour parler. On a fait déjà un sujet sur les tombes du cimetière, les tombes militaires du cimetière de Rodez. Je le rappelle, tous les morts de la guerre de 14, il y en a un peu plus d'une centaine, sont morts dans les hôpitaux temporaires, complémentaires, mixtes et auxiliaires qu'il y avait pendant la guerre de 14 en Aveyron. Donc mon sujet, ça sera celui-là, ça sera sur les hôpitaux militaires en Aveyron durant la guerre de 14.
Et ben,
nous restons en 14-18.
Ben intéressant encore une fois. Merci beaucoup Vincent.
Merci à toi, merci à vous. Prenez soin de vous et prenez soin de vos proches.